Mais comment prier pour les mamans? Et ensuite, comment prier pour les enfants? Parce que le désir du cœur de la maman, c'est de prier pour son enfant, prier que Dieu se manifeste dans sa vie, prier que l'enfant vienne à Christ à un âge très tôt, etc. Mais avant de parler de comment on prie pour notre enfant, voyons comment on prie pour la maman. 1 Samuel 12, verset 23, verset 24, c'est un passage que Samuel a donné au peuple de Dieu. Et il en dit avec cet engagement, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Alors son attitude était, « Si je ne prie pas pour vous, je suis en train de pécher contre l'Éternel. » Donc pensons que chaque personne qui compte sur nos prières, il compte sur notre fidélité à présenter devant Dieu leur vie, leur contexte, ce qu'ils sont. Mais dans ce cas-ci, c'est les femmes, les mamans. Alors, un jour comme le jour de la fête des mères, les femmes peuvent sentir une panoplie d'émotions. Il y a celle qui attend son premier enfant. Parfois, il y a des appréhensions. Parfois, il y a « mais comment ça sera ?» etc. Ça va bouleverser notre vie, ça va bouleverser notre quotidien. On va être réveillé 8 mois, les premiers 8 mois de la naissance du bébé. Mais non, pas 8 mois, j'espère. Mais oui, il y a des enfants qui se réveillent toutes les nuits pendant 8 à 9 mois. Alors quand les mamans arrivent le dimanche matin avec les petits yeux, on comprend pourquoi. Et c'est pour ça que sur la liste de prières, donc qu'on va mettre à jour, mais vous avez toutes les couleurs. Vous avez des familles qui ont des bébés, des enfants, etc. Il faut savoir comment prier d'une manière intelligente pour chaque famille et donc ce qu'ils représentent. Hein, ce qu'ils représentent. Il y a donc celle qui attend son premier enfant. Il y a les belles mamans d'une famille composée qui essayent de trouver leur place, qui ne veulent pas prendre la place de la maman, de l'enfant, mais en même temps veulent aimer. Peut-être la maman de l'enfant n'est pas chrétienne, elle est chrétienne, et alors elle veut aimer l'enfant, elle essaie de trouver sa place. Et parfois il y a des enfants dans des familles composées qui sont très difficiles à accepter la belle-mère ou le beau-père. Aussi il y a celles qui ont perdu leur maman. On a des pensées nostalgiques aujourd'hui, tous ceux qui ont perdu, pour les femmes qui ont perdu leur maman. Il y a celle aussi dont l'enfant s'est éloigné de Dieu. Ça aussi, c'est des émotions. C'est des émotions parce qu'on s'est dit, mais Seigneur, ta parole dit, élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais est-ce que je vais obligé d'attendre 40 ans pour que mon enfant revienne? Vous savez, quand des mamans pleurent, quand leur enfant, quand leur adolescent, parfois quand leur jeune commence à se dévier du chemin de Dieu, alors il y a des émotions aussi dans leur cœur. Il y a celles qui ont perdu leur enfant. Ça aussi, c'est très difficile, on a déjà parlé. Comment réagir et comment accompagner et comment aimer quelqu'un qui a perdu son enfant. Il y a celle qui n'a jamais eu d'enfant et pourtant a un cœur de mère et qui essaye de manifester ce cœur en prenant soin de ceux qui les entourent, des malheureux, de ceux qui sont éprouvés. Ils essaient d'avoir, même s'ils ne sont pas maman, même s'ils ne sont pas mariés, mais quand même dans leur cœur, elles ont ce cœur de tendresse. Et il y a celles aussi qui sont des mamans heureuses, dont le cœur est satisfait de sa famille. Au psaume 113 et verset 9, il dit, « Il donne la maison à celle qui était stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » Louez l'Éternel. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère heureuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Je me rappelle quand Rachel, notre fille, elle était au bord de la mort à l'âge de 4 jours. Il avait un virus dans l'hôpital, une méningite ou quelque chose qui attaquait son cerveau. Elle était au bord de la mort pendant 4 jours. Et donc nous on allait presque jour et nuit, on lui lisait des versets, on lui chantait, on priait pour elle, on ne pouvait pas la toucher parce qu'elle réagissait dans la couveuse. Et alors on voyait qu'il pourrait bien se faire qu'elle n'allait pas survivre. Elle, à un moment donné, donc, elle était complètement grise. On lui a fait une ponction lombaire, elle n'a même pas réagi. C'était horrible, horrible. Et Denise, elle s'est attachée à ce verset. Il a fait une mère joyeuse au milieu de cet enfant. Et nous, on a continué à prier pendant 4 jours. On ne savait pas quelle serait donc l'échéance. Et rapidement, mais on est parti à 1h30 du matin dans un hôtel qui n'était pas très loin de l'hôpital à Gonesse. Et on s'est réveillé à 5h30. J'ai appelé, ils m'ont dit, mais c'est presque la fin, elle ne respire presque plus. Et nous, on s'est réendormi. Ça faisait 4 jours qu'on n'avait pas dormi du tout. On s'est réendormi dans les pleurs en disant, bon, certainement ils vont nous téléphoner pour nous dire qu'elle est décédée. Et à 11h30, j'appelle, je me réveille en sursaut. J'appelle et je dis, j'appelais pour savoir comment va l'enfant Rachel Host. Ah, mais à 11h, elle s'est réveillée dans son coma. Elle est avec le grand professeur au 7e étage, venait à 14h. Alors, ce grand professeur nous avait dit, mais monsieur, ne restez pas à côté de ces enfants parce qu'ils vont mourir. Il y avait 4 enfants qui étaient au bord de la mort, 2 sont morts. Il nous disait, mais ne vous enchérissez pas auprès des enfants, ils vont mourir. Vous ne voyez pas les autres enfants, autres parents, il est le seul. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mourir. Et nous, on a dit, on ne sait pas si Dieu va nous la rendre ou si Dieu va la reprendre, mais nous, on va être là. Et alors, à 14h, alors quand on est arrivé à 13h, tout était éteint, plus de couveuse dans la pièce, il n'y avait plus personne. Les infirmiers nous regardaient un petit peu bizarrement. Et à 14h, tout d'un coup, il y a la grande porte qui s'ouvre. Il y a ce grand professeur à l'hôpital de Gonesse à l'époque, il y a 29 ans bientôt, qui crie, mais c'est un miraculé, c'est un miraculé. Il m'avait dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais alors, il témoignait, c'était un miraculé. Quand même, elle est restée 3 semaines en queveuse, 3 semaines donc en soins intensifs, au cas où il y aurait des séquelles mentales, etc. Mais non, Rachel est complètement normale, le Seigneur nous l'a redonné. Mais Denis s'est attaché à ce verset, il a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Elle a dit, moi je vais être une mère joyeuse, elle a prié, elle a intercédé. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et bien sûr, comment pouvons-nous prier pour les mamans aujourd'hui? Il y a 4 mamans qui ont exprimé des prières et j'aimerais donc vous les lire. Père, nous nous approchons du trône de ta grâce à faveur de toutes les mamans à qui tu as confié le soin de ces précieux enfants, ces précieuses flèches que tu as mises entre leurs mains. Nous te remercions parce que tu as créé chaque maman avec une combinaison de dons et de talents uniques. Nous te remercions aussi pour leur abnégation, pour le fait qu'elles se sacrifient elles-mêmes pour leurs enfants. Nous te remercions aussi pour ces nuits tard qu'elles passent avec l'enfant qui avait un colique, qui était malade. Nous te remercions pour ces mains qui ne connaissent pas le pain de la paresse. Vous savez, quand on lit Proverbe 31, elles ne mangent jamais le pain de la paresse. Denise disait, ah, j'aimerais bien manger le pain de la paresse, c'est trop longtemps. Mais ici, elle ne connaît pas le pain de la paresse parce que ses mains qui parfois sont marquées d'avoir lavé, d'avoir séché, d'avoir insisté, d'avoir mélangé les choses, d'avoir fait la couture, d'avoir fait les câlins, d'avoir discipliné, d'avoir porté l'enfant, d'avoir écrit avec l'enfant, effacé avec l'enfant, fait de la peinture, versé ci, versé ça. Seigneur, merci pour ses mains. Pour ces mains qui ne connaissent pas la paresse. Nous te remercions aussi pour le don du temps que tu as donné à chaque maman pour qu'elle donne à ses enfants. Nous te remercions pour ces mères qui sont à la maison, pour les mamans qui sont travaillées dans le monde du travail et pour les mamans qui font les deux. Nous te remercions aussi pour la flexibilité des mamans. Elles sont flexibles. Elles sont infatigables. Elles sont persévérantes. Elles sont dévouées. Merci Seigneur pour elles. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous croyons que tu leur donnes la force. Tu les aides à comprendre que même les tâches les plus banales auront une portée éternelle. Tu leur fais comprendre aussi qu'elles ont une grande place dans ton plan divin. Tu les aides aussi à comprendre que c'est elles qui peuvent emmener des changements radicaux, qui pourraient toucher le monde, qui pourraient influencer des pays. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'aussi tu les aides à ne jamais se sentir sous-estimés et ignorés. Aussi, nous te prions, Seigneur, pour les mamans seules, les mamans célibataires, qui doivent vraiment dépendre de toi afin d'être père et mère pour leurs enfants. Nous te remercions pour tes grands bras qui entourent des enfants qui n'ont jamais connu leur père. C'était intéressant de voir le chant ce matin par rapport aux bras de Dieu qui nous entourent. Nous te remercions encore, Seigneur, parce que tu leur donnes la sagesse, le discernement. Elles te demandent de l'eau de vie. Elles te demandent d'être leur source spirituelle et leur force physique. Elles te demandent, Seigneur, que ta grâce coule au travers de leur cœur envers leurs enfants. Nous te prions aussi pour ces mamans, Seigneur, qui n'acceptent que l'excellence, qui n'acceptent que l'enfant puisse briller. Pourquoi ? Parce que plus il donne un témoignage d'être quelqu'un qui est discipliné, plus ton nom sera glorifié. Nous te remercions aussi, Seigneur, parce que nous voulons les honorer, nous voulons les aimer, les chérir, comme les femmes qui nous ont donné la vie, qui nous nourrissent et surtout qui se sont engagées à prier pour nous. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance envers toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as tissés depuis le ventre de notre mère et aujourd'hui nous sommes qui nous sommes grâce à elle. Ensuite, une deuxième maman qui prie pour les mamans célibataires, les mamans seules, les mamans dont le divorce a cassé leur foyer, la maman qui ne s'est jamais mariée et qui n'a jamais eu quelqu'un qui lui avait fait des promesses, qui a tenu ses promesses à ses côtés. Père, nous te remercions pour chaque femme qui a été bénie par le privilège d'être maman. Nous te remercions pour chaque maman célibataire, chaque maman seule, qui doit aussi, Seigneur, être une servante à tes yeux, qui va aussi élever leurs enfants dans tes voies. Père, nous te prions, Seigneur, que tu continues à leur donner une grâce particulière afin qu'elles ne se lassent pas, étant seules, de continuer à être généreuses, pleines de bonté envers leurs enfants. Nous te prions aussi, Seigneur, que tu gardes leur relation étroite avec toi, qu'elles puissent t'adorer en esprit en vérité, qu'elles ne se laissent pas, Seigneur, distraire par le poids ce que cela représente de ne pas avoir un père, un homme, un mari dans la famille. Te demandons aussi, Seigneur, que tu les fasses penser qu'elles sont des filles précieuses à tes yeux. Et Seigneur, que toi, tu ne les abandonnes jamais. Te remercions aussi parce que, Seigneur, lorsqu'elles sont fatiguées, elles peuvent te prier, elles peuvent aussi être encouragées par d'autres personnes, par une sœur aînée dans la foi qui peut venir pour soutenir leurs bras dans le combat, comme Aaron l'a fait pour Moïse. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que dans les grandes choses et dans les petites choses, elles peuvent, Seigneur, aussi te demander que tu sois une protection pour elles et pour leurs enfants. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit. Une troisième maman, une prière pour une maman stressée. Ça vous arrive? Le stress? Seigneur, nous te prions pour la maman qui est stressée. Qu'elle ait une pensée claire. Qu'elle ait une bonne santé. Qu'elle sache que ta grâce est suffisante. Qu'elle sache qu'à chaque saison, à chaque caprice de l'enfant, à chaque question qui est posée et à chaque échec, tu es toujours là et tu es suffisant pour combler son cœur. Qu'elle sache, Seigneur, qu'elle est aimée ardemment par le Père. Même si elle n'est pas arrivée à faire ce qu'elle voulait faire aujourd'hui, tu l'aimes quand même. Même, Seigneur, si elle s'était déterminée qu'elle allait devenir quelqu'un qui allait donc avoir une vie dévotionnelle tous les jours et à 9h du matin, elle allait lire la Bible pendant une heure et s'il n'arrive pas à le faire, Seigneur, bénis-la quand même. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu viens aussi pour la bénir au travers de ses enfants, son mari. Tu demandes aux enfants de la respecter, tu demandes aux enfants de l'obéir, tu demandes aux enfants de ne pas la stresser, tu demandes aux enfants de rendre la tâche plus facile pour elle. Je vous ai déjà dit, mais quand quelqu'un traînait par terre et que les 7 enfants sautaient le truc chaque fois et 2 jours passaient, 3 jours passaient, alors un jour je disais, mais attendez, vous croyez que ma femme, elle va ramasser ça? Ah non, 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 non. C'est ma femme d'abord et ensuite c'est votre maman. Alors, rendons la tâche plus facile. Faisons tout pour rendre la tâche facile. Alors, merci Seigneur aussi, parce que tu remplis son cœur de joie, malgré le stress. Merci aussi, Seigneur, parce que tu lui donnes de vivre des moments, des anecdotes dont elle va se rappeler par la suite, même si elle n'est pas arrivée à faire tout le ménage ce jour-là, mais quand même, tu étais là et les enfants étaient là et ils étaient dans une joie de la voir comme maman. C'est aussi fait de la comprendre que même si les jours sont tellement longs, les années sont courtes. Elles ne sont qu'une vapeur, comme la Bible le dit. Seigneur, que notre maman stressée, elle puisse arriver à son lit la nuit et dire, Seigneur, à demain suffira sa peine. Aujourd'hui, je sais que tu souris à mon égard. Et aussi pour les mamans qui souffrent. Les mamans qui souffrent. Parfois, il y a des jours qui sont très durs. Il y a des combats. Il y a des craintes. Il y a des soucis. Au milieu de tout ça, qu'elles reconnaissent qu'elles ne sont pas seules. Qu'elles reconnaissent que tu combats pour elles. Qu'elles reconnaissent aussi que si toi tu es pour elles, personne ne pourra être contre elles. Aussi, Seigneur, les mamans qui parfois elles doutent. Elles doutent parce qu'elles croient tes promesses, mais elles ne voient pas tes promesses réalisées dans la vie de leurs enfants. Seigneur, soutiens-les. Aussi, pardonne-leur pour ce qu'ils ont oublié. Pardonne-leur aussi parce qu'ils ont perdu confiance qu'en réalité tu étais leur guide. Aussi, Seigneur, toi tu es quelqu'un de tout puissant, tu es autour de nous, tu es capable. Dans chaque situation, peu importe la difficulté, tu es celui qui guérit, tu es celui, Seigneur, qui vient sécher nos larmes. Tu es celui, Seigneur, qui vient nous soutenir. Tu es celui aussi qui nous dit que rien n'est impossible pour toi. Alors il y a ceux, Seigneur, celles aussi, Seigneur, qui souffrent aujourd'hui parce que ils ont perdu leur maman, elles ont perdu leur soutien, elles ont perdu leurs racines. Et Seigneur, parfois, elles se sentent complètement déboussolées, complètement bouleversées. Elles n'ont plus vers qui se tourner pour demander un conseil. Seigneur, viens, que ta paix soit dans leur cœur, que ta présence vienne pour inonder leur cœur et leurs pensées. Et leur rappeler que l'ennemi ne pourra jamais voler quelque chose de leur main et de ta main. Leur donner confiance que si elles sont fidèles à continuer à être un exemple, à élever leurs enfants dans tes voies, leurs enfants, un jour, ils verront la vérité. Merci Seigneur parce que tes chemins sont plus hauts que les nôtres. Tes pensées sont différentes aux nôtres. Alors, nous déposons tout à tes pieds, chaque fardeau, chaque souci. Croyons que c'est l'endroit le plus sûr dans lequel nous sommes. Nous sommes en sécurité en toi. Merci pour cette grâce renouvelée tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Intéressant. Comment prier pour les mamans? Mais comment prier pour mon enfant? Samuel, tu peux aider, s'il te plaît? Samuel et Guy, allez, si tu veux. Et là, vous pouvez prendre des notes. Une à chaque. Comment prier pour mon enfant? Alors, la première prière qu'on exprime, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ comme sauveur. Le plus tôt possible. 1 Timothée 3, verset 15 nous dit que c'est par les Écritures que nous sommes rendus sages au salut. Et si vous regardez ce passage, en 1 Timothée chapitre 3, vous verrez que Paul va rappeler à Timothée qui c'est qui lui a pris la foi, par qui il a eu connaissance de ces paroles qui l'ont rendu sage pour le salut. 1 Timothée 3, 15. Et non, c'est 2 Timothée 3, 15, je me suis trompé. 2 Timothée 3, 15, verset 14, je dis, « Toi demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » De qui? De sa mère et de sa grand-mère, Loïs et Eunice. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Par la foi en Jésus-Christ. Priez qu'ils connaissent Christ comme sauveur le plus tôt possible. Alors, quel est l'âge de la raison? À quel âge peut un enfant prendre conscience qu'il a besoin d'un sauveur? Mais Dieu se révèle d'une manière différente à chacun. Il y a des enfants qui se sont donnés à Christ à l'âge de 5 ans, à l'âge de 4 ans. Ils ont compris quelque chose. Nous, on a eu des expériences avec les 7 enfants dans lesquels chacun, ils se sont posés des questions, ils sont venus donc nous interpeller. Et je me rappelle donc Michael, on avait prié avec un petit garçon ici le jour de Pâques, le 12 avril 1997, il avait 4 ans. Et alors, il m'avait vu prier pour cet enfant avec son père. On avait des chaises bleues, on s'est assis sur les chaises bleues, on s'est mis à genoux avec l'enfant. Donc sur les chaises bleues, on s'est mis vraiment au niveau de l'enfant. Et il a donné son cœur à Jésus. Et Michael était là, il l'observait. Et la nuit, donc on revenait d'une visite, j'avais 4 enfants avec moi. Il me dit, papa, quand est-ce que tu vas prier pour moi? Je dis, mais pourquoi Michael? Parce que moi aussi j'ai besoin de Jésus. Alors, je lui dis, pourquoi? Pourquoi tu as besoin de Jésus? Parce que moi aussi je suis pécheur, Jésus est mort pour moi. Et on est revenu à la maison, on s'est mis tous à genoux, par terre, et Michael a donné son cœur à Jésus-Christ, le 12 avril 97. Alors, chacun, vous savez, si nous vivons, et personne n'est parfait, et même les pasteurs ne sont pas parfaits, et les femmes des pasteurs ne sont pas parfaites non plus, si nous vivons pour Dieu, et nous leur donnons envie de connaître Dieu, nous leur donnons envie de dire, j'ai besoin d'un sauveur, je veux Jésus dans mon cœur. Je vous assure, votre vie sera beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Si vous connaissez des enfants à l'âge de 4 ans, 5 ans, qui mentent tout le temps, qui se chamaillent, qui provoquent, qui sont toujours en train de désobéir, vous les connaissez? Oui? Alors, qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ, je vous assure, il y aura un changement. Je vous assure. Et je sais qu'il y a des mamans et des papas ici qui peuvent en témoigner ce matin. Mais la prière, c'est qu'ils connaissent Christ comme sauveur le plus tôt possible. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et qu'ils sachent ce qu'ils ont fait. Alors nous, on fait une petite fête tous les ans. Donc on est 9 dans la famille. Et donc on a 18 anniversaires. Hein. Donc on a donc les dates d'anniversaire de la vie de l'enfant et des parents. Et aussi on a la date d'anniversaire spirituelle. Et Denise, elle fait un petit jello. Chez la mexicaine, en forme de cœur, ou sinon un gâteau en forme de cœur, et on revient sur le moment quand l'enfant a donné son cœur à Jésus. Et si vous demandez à nos enfants comment est-ce qu'ils ont grandi, ils vont se rappeler chaque fois, je prenais conscience, et au fur et à mesure que je grandissais, que je mûrissais, que j'arrivais à l'adolescence, etc., je savais qu'au premier moment, quand j'avais donné mon cœur à Jésus, quelque chose s'était passé en moi. Moi, c'était à l'âge de 5 ans, le 27 septembre 1961, Donc ça veut dire que j'ai 56 ans cette année, depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Alors c'est sûr et certain, moi je me rappelle. Je me rappelle quand il y a eu ce moment dans lequel j'ai parlé avec ma mère, et on s'est mis à genoux, et j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Et mes parents ont témoigné d'un changement qui a eu lieu, même à l'âge de 5 ans. Alors des fois, on voit l'enfant qui a dit un mensonge, ah qu'est-ce que c'est mignon, il a dit son premier mensonge. Non, c'est pas mignon. Parce que sinon, le mensonge, la rébellion, ça vient. Et c'est pour cela que lorsqu'on prie pour que Christ devienne notre sauveur, je vous assure que la parole de Dieu va commencer à trouver une réceptivité dans leur cœur. Priez aussi qu'ils aient une haine pour le péché. Le psaume 97 et verset 10. Une haine pour le péché. Pas pour le pécheur, mais pour le péché. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas appelés à satisfaire aucun désir de la chair, aucun péché et aucun compromis. Alors nous lisons en psaume 97 et verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Priez aussi qu'il soit attrapé dans sa faute. Alors, vous savez, avec cet enfant, des fois il y avait des bêtises qui étaient faites, et c'était aucun des enfants qui l'avait fait. Aucun. Donc, notre prière, Seigneur, qu'il soit attrapé dans sa faute. Qu'il soit attrapé. Seigneur, ne le laisse pas, laisse que le Saint-Esprit vienne le convaincre. Et il dit dans le psaume 119 et verset 71, il m'est bon d'être humilié, d'être piégé, d'être attrapé dans ma faute, d'être discipliné, d'être grondé peut-être, afin que j'apprenne tes statuts. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est véridique? Priez qu'il soit attrapé dans sa faute. Des fois, Denis disait, vous inquiétez pas, moi je vais prier, Dieu va me révéler qui c'est. Et 5 minutes après, le coupable pour dire, c'était moi. Mais alors, il faut utiliser beaucoup de psychologie, n'est-ce pas? Mais qu'il soit attrapé dans sa faute. Priez qu'il ne continue pas dans sa désobéissance. Priez qu'il ne puisse pas dormir la nuit, pas qu'il ait des cauchemars, mais qu'il ne puisse pas dormir la nuit jusqu'au moment où il vient, papa, maman, j'ai désobéi. J'ai désobéi. Pourquoi? Parce que la désobéissance, la rébellion, est dans le cœur de l'enfant. Et même si votre enfant est le plus mignon et le plus beau, la rébellion et la désobéissance et l'opposition et le fait de contester et le fait de provoquer est dans le cœur de l'enfant. Et la Bible dit que c'est l'instrument de correction qui en éloigne la rébellion de son cœur. Alors, si on discipline, et il y a un instrument avec lequel on discipline. Alors, la Bible dit, il y a le bâton de correction, ce n'est pas un bâton, ce n'est pas un bat de baseball non plus. Non, il y a un élément qu'on va utiliser pour que l'enfant sache que la désobéissance entraîne une conséquence. Moi, je connaissais des amis de compagnons des dortoirs de l'école biblique qui me disaient « Ah, mais mon père ne m'a jamais donné une fessée. » Oui, je dis, mais ça se voit. Ça se voit. Ça fait 3 semaines que tu n'as pas lavé la vaisselle. Hein? Alors, ça se voit. Moi, j'avais parfois des fois envie de leur apprendre. Alors, si on n'est pas attrapé dans notre faute, si on n'est pas piégé au moment où on nous obéit, à quel moment est-ce qu'on va se repentir? Et c'est pour ça qu'il faut que chacun de nous, on sache, on est sauvé, on a été sauvé, on est passé des ténèbres à la lumière, on a été retrouvé, on était perdu, on était une brebis égarée, il nous a trouvé, il nous a sauvé. Quelque chose s'est passé en nous et nous sommes repentis parce que nous avons compris que notre péché nous séparait de Dieu. Priez aussi qu'il soit protégé et gardé du mal. C'est une prière. Jean chapitre 17 et verset 5, Jésus priait au Père à faveur des disciples. Il dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ne les ôte pas de ce monde, mais préserve-les du mal. Garde-les du mal. Priez aussi qu'ils aient une attitude responsable dans leur engagement. Daniel 6, 3 nous dit que Daniel était un homme qui avait un esprit supérieur. Il était excellent. C'est pour ça qu'il lui a été donné et confié la responsabilité au sein du gouvernement. C'était quelqu'un qui avait un esprit supérieur. C'était quelqu'un qui avait une attitude de responsabilité. Excellence. Il faut que nos enfants sachent qu'il est bon pour le jeune homme de porter son joug dès sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de savoir, bon, aujourd'hui, on ne fait plus de devoirs à la maison, apparemment, ils veulent supprimer les devoirs à la maison, c'est incroyable. Tous nos enfants, ils ont fait des devoirs. Moi, j'ai fait des devoirs. Moi, je revenais donc de l'école et c'était 2 heures, 3 heures de devoirs, il y a 40 et quelques années. Alors, c'est incroyable. Aujourd'hui, on veut que les enfants soient, voilà. J'étais à une école biblique une fois, et pour l'enseigner. Et alors, l'après-midi, après le repas, il y avait ceux qui jouaient au ping-pong, d'autres qui jouaient au volleyball. Et j'ai dit, mais ils n'ont pas de devoirs là? Mais non, 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 non. Il n'y a plus de devoirs à l'école biblique. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Mais ils apprennent ce que les professeurs les enseignent. Mais ils ne passent pas des heures et des heures à lire la Bible, à étudier, à se préparer, à faire des recherches. Ah non, 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 il n'y a plus de devoirs. Voilà, là, aïe, aïe, aïe. Quelle sorte de pasteur ou quelle sorte de ministre sont-ils en train de susciter? Alors, une attitude responsable dans les engagements. Est-ce que nos enfants savent que c'est pour leur bien d'être soumis à nos règles, d'être soumis à ce que nous établissons, ils sont sous notre toit, nous établissons des règles. Nous établissons des règles. Quelle serait une règle aujourd'hui? Pas de téléphone pendant le repas. Pas de texto pendant le repas. Imaginez, il y a des familles aujourd'hui qui se rassemblent pour manger ensemble et tout le monde est dans leur téléphone pendant le repas. Mais alors à quel moment est-ce qu'on va se connaître? À quel moment est-ce qu'on va partager? À quel moment est-ce qu'on va vivre? Il y a des règles et il faut que ces règles soient respectées. Et il faut que nos enfants aient une attitude responsable dans nos engagements. Aussi, il faut prier pour qu'ils respectent et qu'ils soient soumis à tous ceux qui sont en autorité. Ce n'est pas une suggestion, mais quand la police arrête quelqu'un parce qu'ils ont fauté, mais ce n'est pas, bon, on vous suggère que peut-être vous avez fauté, alors on vous donne une chance. Non, ils vont vous dire, cette chance a été la dernière et c'était une de trop. Parce que l'autorité, ils ne rigolent pas. Il faut que nos enfants soient respectueux, qu'ils soient soumis à tous ceux qui sont en autorité. Déjà, il faut leur apprendre à prier pour ceux qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, comme il est dit en Timothée. Mais vraiment, qu'ils soient soumis à ceux qui sont en autorité. Mais alors, si le père est en train de conduire, et il se fait donc choper parce qu'il est allé trop vite, et une fois qu'il a reçu le PV, il rentre dans la voiture, et il dit des horreurs sur la police, vous imaginez ce que l'enfant va dire, va faire. Ah, mais si mon père ne voit pas l'autorité de la police d'un bon oeil, alors moi, la même chose. Il faut qu'il respecte, qu'il soit soumis aux autorités. Et par la suite, ils sont soumis, donc, aux autorités que Dieu établit aussi. Au sein de l'Église, à l'école. C'est Dieu qui a établi l'autorité. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, prier le Seigneur qu'ils respectent, qu'ils soient soumis à tous ceux qui sont en autorité. Priez aussi qu'ils soient gardés et protégés des mauvaises compagnies. Combien de fois des mamans sont venues me voir en pleurs en disant « Mon enfant, il s'est fait avoir la drogue, l'alcool. » Moi, j'avais un centre de réhabilitation pour drogués au Mexique. J'ai travaillé parmi des drogués alcooliques pendant 4 ans avant de venir en France. Combien, et ils se disaient « Mais c'était des mauvaises compagnies. » Regardons en Proverbes chapitre 1. C'est le conseil de la parole de Dieu. Lisez les proverbes. Lisez un proverbe par jour. C'est tellement riche les proverbes. Surtout avec vos enfants, avec vos ados. Alors regardez le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse de l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tous entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne t'aimais pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Il y a un dicton en espagnol qui disait « Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. » Certainement, il y a la même chose en français. « Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu passes du temps. Dis-moi. Hein? » Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de combats par rapport aux mauvaises, à la mauvaise compagnie, par rapport à la mauvaise influence. Et si ton père ou ta mère te dit « Ça ne me plaît pas, je ne veux plus que tu passes du temps avec cette personne. » Si ta mère et ta maman sont des personnes de prière, écoute-les. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas séduire en quoi que ce soit par de mauvaises compagnies. Aussi, il faut prier qu'ils soient gardés et qu'ils se donnent dans la pureté pour le bon conjoint futur. C'est-à-dire qu'ils se donnent. Qu'ils pensent à son avenir et qu'ils disent « Ah, mais au lieu d'aller dépenser mon argent, je vais commencer, même à l'âge étant ado, si j'ai l'argent de poche, je vais commencer à mettre ça de côté parce que je veux prendre conscience d'une responsabilité, je veux commencer à penser à mon avenir et je veux me donner pour. Je veux me donner pour. Je veux m'investir pour. Et dans tous les sens, dans le temps, dans nos pensées. Il s'est donc pour son futur conjoint. Donc je ne vais pas m'attarder à regarder un film impur. Parce que moi, je veux que mes pensées restent pures. Je veux que mon cœur reste pur pour mon futur conjoint. Gardez qu'il se donne, qu'il comprenne qu'il doit payer un prix. Hein, savoir que le jour quand Dieu va l'unir avec son futur conjoint, c'est parce que c'est sous le regard de Dieu. Et donc les deux seront donc temple du Saint-Esprit. Et il n'y aura pas une association qui sera donc qui sera tordue, qui sera donc lumière, ténèbres, etc. Non. Seigneur, qu'il soit gardé et qu'il se donne pour son bon conjoint futur. Priez aussi que son futur conjoint et lui ou elle restent purs pour le mariage. Alors, mais Marc, mais pourquoi est-ce que tu demanderais à Dieu de donner à ton enfant un conjoint qui est resté pur pour le mariage? Pourquoi cette prétention? Et moi, je crois que si nos enfants sont enseignés à rester purs, et nous pouvons prier que Dieu leur donne quelqu'un aussi qui n'a pas donc connu d'autres expériences, qui n'a pas connu le monde, qui n'a pas traîné dans le monde. Dieu peut les garder, Dieu peut les réserver. On va lire Romains chapitre 6, 12 à 13. Romains 6, 12 à 13. C'est tellement important de savoir. La Bible dit que si quelqu'un s'unit à quelqu'un, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais Romains 6, 12 à 13 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vos membres, tout compris. Ephésiens 5, 3 nous dit que, premièrement, nous devons imiter Dieu dans son amour. Verset 1. Et il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'est de ça que je parle, se livrer pour l'autre, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. L'impudicité, c'est l'impureté avant le mariage. L'impudicité, c'est découvrir la nullité de quelqu'un dont je n'ai pas le droit de la découvrir. Rester pur pour le mariage. 1 Corinthiens 6, versets 18 et 20, nous dit que nous sommes temple du Saint-Esprit. Et alors, nous sommes achetés à un grand prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Verset 18, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Aussi, priez qu'il apprenne à se soumettre à Dieu et à se résister le diable. Ça aussi, le combat spirituel, il faut l'apprendre dès l'enfance. Qu'il apprenne à se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à Dieu? Et ensuite, une fois dans cette position d'être soumis à Dieu, résister le diable d'une foi ferme et voir que le diable, celui qui fuit, alléluia, celui qui s'en va, celui qui est chassé, parce que nous sommes soumis à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable fuira loin de vous. Aussi, priez qu'il soit entièrement consacré à Jésus-Christ. Romains chapitre 12, verset 1 et verset 2. Frère, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous laissez pas entraîner par la mentalité de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous voyez, vous croyez et vous viviez, expérimentiez ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Une consécration entière à Dieu. Vous voulez que vos enfants continuent à servir le Seigneur et à l'aimer après l'âge de 18 ans? Il y a beaucoup d'enfants qu'à l'âge de 18 ans, s'en vont. Il y a beaucoup de parents qui prient, qui pleurent parce que leurs enfants, à 18 ans, ils ont disparu. Moi, je connais beaucoup de situations, beaucoup d'églises dans lesquelles ils n'ont pas pu garder les enfants. Pourquoi? Et on s'est dit, Seigneur, on te prie, mais il faut intercéder. Il faut demander au Seigneur. Il faut qu'il y ait donc une harmonie donc au sein de chaque église locale aussi, pour que l'enfant se sente qu'il est toujours inclus, qu'il fait toujours partie essentielle de ce qui est le corps, qu'il soit entièrement consacré à Jésus-Christ. Et aussi prier qu'il ait un mur de protection grâce à ma prière. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il y a ce passage dans lequel on cherche un homme qui se tient à la brèche. Il faut qu'on se tienne à la brèche pour nos enfants. Aujourd'hui, nous, il faut qu'on se tienne à la brèche pour nos petits-enfants. Brian et Hélène vont avoir notre 12e petit-enfant au mois de novembre. Sarah, elle va avoir notre 11e au mois de juin. Mais maintenant, notre responsabilité, on ne prie pas que pour les enfants et leurs maris et leurs femmes, mais aussi on prie maintenant pour les petits-enfants. Il faut que les petits-enfants, il faut qu'ils soient protégés par ce mur, par ma prière. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Bon, c'est un contexte complètement par rapport donc, au crime de Jérusalem. Mais c'est un verset qui nous montre. Et alors, bien sûr, la conclusion est je ne trouve point. Parce que si je trouverais un homme, une femme qui se tient à la brèche, ça voudrait dire qu'il y aura une protection, qu'il y aura une grâce qui sera accordée. Alors, il faut que ce mur de protection, grâce à ma prière, à mon intercession, à mon exemple aussi, à ma remise en question, au fait que moi aussi je sache demander pardon quand il le faut, et aussi pardonner, et pardonner, demander à Dieu de me donner la grâce aussi d'oublier, et que quand l'enfant refait la même chose pour laquelle il a été puni, ah mais tu vas jamais changer toi, hein? Tu vas continuer, ça se voit, c'est inné dans ton cœur, alors toi t'es perdu toi. Non, Seigneur, je l'ai pardonné, je vais prier et il y aura un changement. Amen. Vous savez, si vous trouvez, si vous prenez le temps de chercher ce qui est positif par rapport à votre enfant tous les jours, je vous assure, vous allez trouver au moins une chose. Et chaque jour, vous ajoutez, vous accumulez, et tout d'un coup, tout ce qui n'allait pas commence à pâlir, et ce qui va commence à prendre plus d'ampleur, et il y a une joie, et parfois il y a la remise en question. Et combien de fois c'est nos enfants qui viennent voir les papa et maman, mais tu ne penses pas que tu as exagéré là, tu ne penses pas que bon, peut-être, je vais réfléchir, je vais prier et je reviens vers toi, on va discuter. Et oui, le Seigneur nous a corrigés au travers de nos enfants. Le Seigneur peut se servir des enfants, bien sûr. Si les enfants entendent aujourd'hui, il ne faut pas non plus s'appuyer trop dessus en disant voilà, donc c'est moi qui ai raison et mes parents non. Je me rappelle quand Brian avait un livre qui disait « Parfois, mes parents peuvent se tromper. » Ça, c'était le livre de lecture, dans l'école maternelle, ou CE1, je ne sais pas si c'est CE1 ou quoi. « Parfois, mes parents peuvent se tromper. » Mais pourquoi s'aimer ça dans le cœur de l'enfant? Oui, personne n'est parfait, mais pourquoi faire un livre pour que l'enfant soit là pour chercher toutes les petites bêtes et dire « Non, mais tu t'es trompé là, tu as fait ci, tu as fait ça. » C'est vrai, mais si tu deviens trop copain-copain avec ton enfant, alors là, vous allez être au même niveau. Il y a toujours une hiérarchie. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés, la Bible dit. Il y a une obéissance. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Ça, c'est notre responsabilité. N'irritez pas vos enfants. Ne les frustrez pas. Ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Si vous devez casser la promesse, faites quelque chose après pour compenser, pour que l'enfant sache que vous êtes prioritaire dans son cœur, etc., dans votre cœur. Mais comment prier pour l'enfant? Comment prier que Dieu garde nos familles et garde nos enfants sur la bonne voie? Prions. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que tu viens, Seigneur, nous parler à l'oreille. Tu nous fais comprendre, Seigneur, que être parent, surtout aujourd'hui être maman, puisqu'on les honore aujourd'hui en particulier, être maman, ce n'est pas facile. Mais tu nous donnes ta grâce, tu nous donnes ton aide, tu nous donnes ton discernement, ton savoir-faire. Et Seigneur, peut-être parfois on n'a pas raison, mais tu nous aides, Seigneur, à avoir de la grâce, de l'humilité. Et pour dire à l'enfant, ok, c'est toi qui as eu raison cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire qu'on est copain-copain. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre cette hiérarchie. Honore ton père et ta mère. Et bien sûr, on honore aussi nos enfants. Je te demande, Seigneur, pour toutes les mamans ici aujourd'hui, qu'elles soient fortifiées dans leur résolution, Seigneur. Tant que maman et maintenant plusieurs, en tant que mamie, qu'elles puissent avoir un rôle tellement important, Seigneur, en voyant leur famille, Seigneur, suivre tes voies au nom de Jésus-Christ. Console, Seigneur, celles qui sont nostalgiques, celles qui aujourd'hui souffrent, celles qui aujourd'hui ont des combats. Console-les, fortifie-les, Seigneur, dans leur foi. Seigneur, que chaque enfant puisse aujourd'hui et tous les jours honorer leur mère. Honorer, Seigneur, oh Dieu, te remercier pour la famille que tu leur as donnée. Te remercier, Seigneur, pour la maman que tu leur as donnée. Te remercier, Seigneur, pour le cadre dans lequel ils ont été élevés. Donc, il y a toujours de la reconnaissance. Et peut-être qu'il y a des parents à qui on doit écrire une lettre aujourd'hui. Tu sais, papa, maman, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas compris. Ça fait plusieurs années qu'on ne se parle plus. Mais moi, je ne veux pas avoir de regrets. Je ne veux pas entendre un jour dire que vous êtes mort et que je sois avec des regrets en disant « Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait la paix ?» Je te demande vraiment, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, et si on doit pardonner des parents qui sont déjà partis, Seigneur, qu'on puisse le faire et qu'on puisse déposer tout cela à tes pieds. Mais Seigneur, que nous ne vivions pas dans le non-pardon. Merci pour le message de dimanche dernier. Sur le non-pardon, Seigneur, va nous abîmer. Je demande même, Seigneur, par rapport aux parents qui nous ont déjà quittés. Seigneur, s'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert, des personnes qui ont des tristes souvenirs, qui se rappellent des mots destructeurs qui tu ont entendus, Seigneur, je te demande de leur donner la grâce aussi de pardonner. Qu'aujourd'hui, ils puissent parler avec quelqu'un en disant « Prie pour moi, parce que moi, je veux acter et je veux dire, papa, maman, même si tu es parti déjà, je te pardonne. Je ne veux plus vivre avec ce poids sur mon cœur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui restaure nos vies, qui restaure les familles. Et tu as dit aussi, Seigneur, dans ta parole en Malachie, que tu vas faire que les cœurs des enfants se tournent vers les parents et que le cœur des parents se tourne vers les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.